Bonjour à tous et bienvenue. On est jeudi matin, le 4 octobre, Service Magazine. Et je suis de retour après 2 semaines d'absence.
Bonjour Yvan.
Bonjour Marie.
Bon
et
retour,
bonjour
Yvan.
Monique. C'est-tu dans la nouvelle formule? C'est vous qui dites bonjour à l'animateur maintenant?
Non, mais c'était de retour. Les gens, peut-être, ils se souviennent plus de toi, alors je t'ai nommé.
Oui, ben j'ai pas encore mon visage sur une pinte de lait, mais ça s'en venait. Et on dit bonjour à Maurice Bolduc, qui va essayer de mettre un peu de discipline dans tout ça et un peu de musique.
Surtout de la musique.
D'accord. Alors, mesdames, on parle de quoi?
Alors, de mon côté, Monique Kirouac, on va se demander pourquoi sommes-nous si intolérants aux inégalités économiques?
Okay.
Alors, la réflexion n'est pas qu'économique, elle sera aussi sur le plan psychologique, parce qu'il semblerait que c'est notre cerveau, entre autres, qui fait des sélections à ce sujet.
J'ai très hâte d'écouter ça parce que j'ai vu votre titre puis ça m'a beaucoup intriguée.
Ah ben tant mieux. Et le deuxième sujet en première partie, comment expliquer que nos enfants réussissent infailliblement à nous épuiser?
Là, les enfants, c'est de quel âge à quel âge?
C'est jusqu'à l'adolescence, en fait.
OK.
Jusqu'à la puberté, plus précisément.
Ben, il y a des exceptions. Marie, moi, sur ton côté.
Moi, je vous présente un texte en première partie. Je vous parle d'écoles qui font rêver au plan architectural. Donc, c'est un livre qui vient de paraître.
Et moi, de mon côté, je vais vous parler de quelques nouvelles que j'ai reçues de la part de l'Association sportive des aveugles du Québec dans leur dernière infolettre. Alors, on part la machine. Alors, Monique, c'est le temps là, de m'instruire.
D'accord. Alors, c'est un article de Jean-Baptiste Veilleras pour la revue Science et Vie du mois d'août 2018. Et il s'intitule « Inégalité économique, notre cerveau est leur meilleur allié ».
Notre cerveau
est leur meilleur allié aux inégalités économiques.
Okay, alors, on écoute ça attentivement.
On le sait, les inégalités économiques croissent de façon vertigineuse et la plupart d'entre nous les sous-estimons et semble-t-il de façon tout aussi vertigineuse. Alors, pour comprendre quelques chiffres, je vous donne. Aujourd'hui, 8 personnes les plus riches du monde possèdent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres.
Et nous ne faisons pas partie des 8 personnes.
Et comment est-ce qu'on en a... Non. Comment est-ce on en est arrivé là? Il y a de nombreux travaux qui ont été faits à cet égard. On pourra se rappeler du livre de Thomas Piketty, Le capital du 21e siècle, qui explique très, très bien cette dynamique inégalitaire de la redistribution des richesses. Mais dans notre article, ce qu'on nous fait découvrir, c'est que ce n'est pas suffisant d'utiliser le volet économique pour expliquer tout. Il y a une réponse qui se trouve, en effet, dans notre cerveau. Et pour comprendre tout ça, il faut prendre conscience de la situation. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur le plan de la recherche et de leur médiatisation pour que la perception change, en fait, notre perception change. Nous avons une perception des inégalités économiques qui demeure éloignée, très éloignée de la réalité. On a interrogé en fait 5 000 personnes, en fait 5 000 Américains, en leur demandant ce qu'ils pensaient être l'écart entre le salaire d'un ouvrier non qualifié et celui d'un dirigeant d'entreprise.
Mm-hmm.
Le résultat? Leur estimation moyenne était de 1 à 30. Écoutez bien, la réalité, c'est de 1 à 354. Et faut-il préciser qu'en 1970, cet écart était de 1 à 20. Alors, vous voyez comment cette redistribution est incroyable.
Mm-hmm.
Alors, il ne s'agit pas donc d'un défaut d'information. L'information, on la diffuse, on l'explique. C'est une erreur, encore une fois, d'appréciation qui vient de notre cerveau et qui est d'autant plus effarante qu'on cherche à améliorer notre situation tout le temps, hein, on veut plus d'argent. Donc, l'écart réel. Il y a donc une différence entre ce que l'on désire comme population, ce que l'on perçoit de la réalité et ce qu'est la réalité elle-même. Et c'est la psychologie des comportements humains qui peut peut-être nous apporter un éclairage. Alors, on ne serait pas autant sensible aux inégalités qu'aux iniquités. Alors,
okay.
On a fait certaines expériences. Entre autres, on a donné à un écolier 3 gommes à effacer, à distribuer entre 2 camarades. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, en général, on va en donner une à un, une autre à l'autre, et on va garder la troisième en se disant, bon, comme ça, c'est équitable
okay.
et égal. Mais si un des deux amis a travaillé plus pour réaliser le projet qu'on devait faire collectivement, eh bien, il est fort possible que le jeune donne la troisième efface à celui qui a travaillé plus fort.
Okay.
Ce qui est déterminant, c'est donc notre perception des inégalités et encore plus, donc à la lumière de cette expérience, la notion d'équité et de justice. Alors, comment on explique que l'équité est le déçu sur l'égalité, en fait? Alors, on est dans une bulle sociale. On est plus sensible aux inégalités observées dans notre entourage qu'aux statistiques nationales.
Oui, sûrement.
Hein, les classes sociales les plus éloignées économiquement, par exemple, n'habitent pas dans les mêmes quartiers et se côtoient peu. Si bien que, riche ou pauvre, la perception des inégalités couvre rarement le spectre entier de la distribution. Il y a un autre biais psychologique qui est celui de la surestimation de soi. Autrement dit, on a souvent tendance à nous imaginer mieux lotis que la moyenne. Et cette perception que l'on dit un peu narcissique est encore plus prononcée dans les sociétés les plus inégalitaires. Il y a un autre biais qui vient brouiller notre jugement, c'est de préférer le statu quo. Ce serait en notre défaveur, ce biais de justification du système. Vous me suivez bien?
Oui.
Ça va?
Oui.
Est-ce que j'éclaire un peu votre lumière?
Oui.
Oui.
C'est un peu décourageant, mais oui.
Oui. Mais, pour terminer, les Norvégiens ont fait quelque chose qui, semble-t-il, corrige ces perceptions.
Qu'est-ce que les Norvégiens ont fait?
Eh bien, ils ont diffusé les revenus imposables de tous les habitants du pays. Alors, chaque individu est à même de se positionner dans la distribution des revenus et de mieux se figurer à ce moment-là les écarts de richesse. C'est une démarche, selon les chercheurs, qui est essentielle pour améliorer les prises de décision individuelles et surtout collectives en matière de redistribution. Alors, mieux on prend conscience, on devient à ce moment-là enclin à mieux comprendre l'inégalité par rapport à l'iniquité.
Mais, vas-y, termine, Monique.
Ben, je termine en disant que c'était un article de Jean-Baptiste Veilleras pour la revue Science et Avenir du mois d'août 2018.
Ben, puis moi, je voudrais ajouter qu'on a du travail à faire parce qu'il n'y a rien de plus difficile à défaire qu'une croyance, même si elle est fausse.
Exactement. Ouais. Et quand on parle de numératie, la compréhension de l'économie fait partie de ça. Et on est très, très loin d'une compréhension même de base.
Oui. Et on a un fils qui serait très fier de ce que je vais dire.
Oui.
C'est que ceux qui ont le pouvoir de changer les choses sont aussi les personnes qui voudraient ne rien changer.
Et voilà. Bien sûr. Tout à fait.
Pendant ce temps, Marie, On devrait travailler sur nos écoles.
On devrait travailler sur nos écoles. Alors, il y a...
Avec le, en redistribuant tout l'argent que le 1% de la population mondiale
ouais,
a.
Et on va voir ce que notre nouveau gouvernement va décider de faire.
Oh,
notamment
des miracles,
avec
des miracles.
Le lab école.
Un peu calme.
Mais je fais référence au lab école parce oui. qu'on a beaucoup parlé de, oui. de l'architecture des écoles. Puis, bon, cet article-là m'a intéressée. Il est écrit par Suzanne Colpron et elle a publié ça dans la Presse Plus lundi de cette semaine. Et elle parle d'un livre qui a été écrit par Marc-André Carignan, « Les écoles qu'il nous faut ». C'est mm-hmm. le titre du livre. Alors moi, j'aimerais bien lire ce livre-là. C'est Jean-René Dufort, l'animateur de Radio-Canada mm-hmm. qu'on connaît bien, qui préface, qui signe la préface de ce livre-là. Et dans la préface, il pose une question. Comment une société soi-disant avancée et riche comme la nôtre peut-elle montrer si peu d'intérêt pour ses écoles? C'est vraiment une très bonne question. Selon l'animateur d'Infoman, lui, il dit que les écoles qu'il nous faut, ce livre-là, qui vient de sortir, devraient être placées dans le rayon Bible du département de la construction du ministère de l'Éducation du Québec. C'est un essai, 200 pages, et on trouve essentiellement des bonnes idées pour moderniser les écoles du Québec, décrépites et figées dans les années 60. Alors, on vient d'aller voter dans les mm-hmm. écoles, hein, on a noté ça, justement. L'auteur et chroniqueur Marc-André Carignan, qui est architecte de formation, a pris près de 8 mois pour faire la recherche et écrire cet ouvrage-là. Et dans ce livre-là, il dresse un portrait pas toujours réjouissant des écoles québécoises et il propose aussi des solutions pour en faire des lieux de vie stimulants, modernes, en phase avec le 21e siècle. Il a écrit les écoles qu'il nous faut avec la collaboration de nombreux acteurs du milieu, des enseignants, des politiciens, des syndicalistes, des directions scolaires, des commissaires, des architectes, des designers et des chroniqueurs. Alors, c'est déjà tout à son honneur d'avoir consulté.
On espère qu'il a consulté M. Thibault, parce que comme il faisait partie...
On le souhaite. On le souhaite. Mais ça, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas.
D'accord.
Il y a eu beaucoup de réflexions sur l'éducation au Québec, mais l'environnement physique dans lequel évoluent les enfants et les professeurs n'a pas fait beaucoup l'objet de discussions. On commence à s'y intéresser. L'auteur pense qu'il y a un réveil collectif, et c'est tant mieux. Son livre s'adresse à tout le monde qui est concerné par l'enfance et l'éducation. C'est pour les parents, les enseignants et les politiciens. C'est ceci étant une note à la prochaine personne qui sera placée à ce ministère-là. Selon l'auteur, au Québec, on est dans une culture de banalité architecturale, la culture du plus bas soumissionnaire. L'architecture commence à faire partie de nos priorités, mais c'est nouveau. Il y a aussi le fait que ce sont toujours les mêmes architectes qui font les écoles. Dans les commissions scolaires, si tu n'as pas fait 5 écoles dans les 5 dernières années, tu ne peux pas proposer tes services. Donc, le bassin d'architectes ne se renouvelle pas. La pire école qu'il a visitée, d'après lui, l'auteur, c'est Louis-Joseph Papineau dans le quartier Saint-Michel à Montréal. D'après lui, c'est un bunker de béton avec des meurtrières comme fenêtres. Il trouve ça bien triste. La plus inspirante, l'école Médéric Gravel au Saguenay, où on a sorti les pupitres. À la place, on a fait des îlots de travail collaboratifs. Les enfants peuvent s'isoler, s'asseoir en groupe ou en sous-groupe. Il y a une flexibilité de l'espace, on en parle de plus en plus en éducation. Mm-hmm. Plein de locaux complémentaires dans l'école, notamment la fameuse cuisine, où les enfants peuvent apprendre les fractions, les langues, s'initier à l'entrepreneuriat. Donc, c'est un modèle pédagogique fascinant. Si il était... en fait, son école de rêve, c'est Médéric Gravel au Québec, mais ça serait dans une école construite dans un boisé, dans un pays scandinave, encore une fois, à cause du côté architectural qu'on ne trouve pas ici. D'après lui, les écoles les plus innovantes sont au Japon et en Scandinavie, mais il se fait aussi des belles choses au Québec. À Marguerite Bourgeois, par exemple, sur l'île de Montréal, on a commencé à intégrer des laboratoires de création numérique. Et s'il était ministre de l'Éducation, M. Carignan, il arrêterait de « patcher », c'est écrit comme ça dans le texte. Il ferait une analyse de chaque école quand vient le temps d'investir pour savoir qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter au-delà de la toiture à réparer ou du gymnase à construire pour en faire une école du 21e siècle. D'après lui, il faut arrêter de saupoudrer dans mm-hmm. les écoles. Alors, encore une fois, je rappelle que c'est Suzanne Colpron qui a signé ce texte-là. C'est publié dans la Presse Plus le 1er octobre.
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon corps. Parmi ces milliers de gens, c'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. Seul dans les genêts, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Le lundi
Lundi au soleil par Jérémy Kissling.
Merci. Alors moi, j'ai toujours voulu être un petit peu journaliste sportif. Alors je me paye la traite ce matin en vous lisant quelques extraits de l'infolettre que j'ai reçue de l'Association sportive des aveugles du Québec. J'ai reçu ça il y a 2 semaines. Ça s'appelle « Votre clin d'œil ». Je trouve le titre vraiment bien. Octobre 2018. Dans une ambiance festive, au début du mois de septembre, le 8, le sentier pédestre du parc Maisonneuve fut illuminé par les bracelets de plus de 200 coureurs qui ont participé à la 6e édition de la Course Lumière. Cet événement, qui était organisé avec l'aide de Mountain Equipment Co-op, mieux connu sous le sigle MEC, au profit de l'Association sportive des aveugles du Québec, avait comme principal objectif d'amasser des fonds pour financer les différents programmes de l'association visant à promouvoir la pratique du sport amateur auprès des personnes vivant avec une déficience visuelle au Québec. Parallèlement, se déroulant à la noirceur, la course Lumière a permis de sensibiliser la population aux défis que les personnes aveugles et malvoyantes vivent au quotidien. Grâce à la contribution des fidèles donateurs, la SAC a réussi à amasser plus de 7 000 $ dans le cadre de cette activité de financement. Mais, pour l'avoir fait moi-même à vélo dernièrement pendant l'été, il y a des travaux de réaménagement dans les sentiers du parc Maisonneuve. Mm-hmm. Ça a entraîné un défi additionnel tant pour les organisateurs que pour les participants. Malgré les difficultés rencontrées, la course a débuté à 20 h et s'est déroulée dans la meilleure des ambiances grâce à l'esprit des coureurs, aux bénévoles présents sur place, et à Dame Nature, qui a été particulièrement généreuse cette année. En tout, il y a eu 218 coureurs qui ont compléter le parcours, dont 14 personnes vivant avec une déficience visuelle. Chez les personnes aveugles et malvoyantes, le podium du parcours de 5 km fut composé de Moufid Boualeg en première position, avec un temps de 22 minutes 23 secondes. Je dis le temps parce que quand même, courir sans qu'on voit, là, c'est vraiment... Puis 22 minutes, mais vous allez voir, c'est encore, il y a encore d'autres exploits intéressants. Frédéric Gauthier en deuxième et Tristan Lépine-Lacroix en troisième. Les premières positions du parcours de 10 km ont été occupées par Michel Cyr en 57 minutes 28 secondes. Mais moi, je vois devant moi, puis je fais ça en une heure. Fait que c'est vraiment impressionnant. Et finalement, aux 15 km, c'est Marco Dubreuil qui a complété le parcours en 1 heure et 27 minutes. Du côté de Laval, on cherche des guides coureurs. On est présentement à la recherche d'un guide coureur qui pourrait courir 2 ou 3 fois par semaine avec un des membres de la SAC qui réside à Laval. Tous les nouveaux guides doivent suivre la formation gratuite d'environ 2 heures, offerte par l'association sportive, et se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires, comme dans toute implication bénévole. Alors, pour toute question ou faire partie de votre intérêt, vous communiquez avec l'Association des sports aveugles du Québec, avec Mme Naomi Douarilus. Pendant ce temps-là, la session de goalball récréatif au Québec a lieu à Montréal et à Québec. Le goalball, je suis allé voir, c'est une espèce de jeu où on fait rouler un ballon qu'il y a des petites boules dedans pour qu'on puisse entendre la direction de la boule. Il y a 3 joueurs contre 3 joueurs. C'est des équipes de 6, là. Il y en a 3 sur le banc, 3 joueurs contre 3 joueurs. Il faut essayer de faire entrer le ballon dans un filet, dans un but. Oui. Et les autres, ils essaient de l'arrêter en se lançant par terre. C'est assez impressionnant.
C'est un gros ballon?
Oui, c'est un gros ballon, oui, oui. Moyen ballon, oui.
Un peu plus gros qu'un ballon de football, par exemple.
Oui, exactement.
Ou de soccer.
Mais ça ressemble à un ballon de basket.
De basket, oui, ah, d'accord.
Alors, les activités de goalball récréatif pour adultes sont amorcées à Montréal. Il est toutefois possible de s'inscrire pour la session ou pour une séance, si on veut essayer ça. La session inclut 10 séances de 1h30. Ça a lieu à l'association récréative Milton Park, au 3555 rue Saint-Urbain. Pour la session, il y a des coûts qui sont reliés à cette participation-là. On peut se joindre à eux pour chaque vendredi jusqu'au 23 novembre. À Québec, les gens de Québec peuvent jouer au goalball récréatif tous les lundis soirs à l'IRDPQ. Je suppose que les gens de la région connaissent qu'est-ce que ça veut dire. Au 525 boulevard Wilfrid Hamel, de 18h30 à 20h30. Et ce que j'avais trouvé intéressant dans cette nouvelle-là, c'est que vous ayez une déficience visuelle ou non, vous êtes tous invités à essayer ce sport. Alors, vous pouvez avoir des informations à l'association sportive. Et je termine par le tennis sonore. J'en ai déjà parlé dans le passé du tennis sonore. Il va y avoir des sessions qui commencent. Ça va durer 10 semaines. C'est du 10 octobre au 12 décembre 2018. Chaque mercredi de 18h à 19h30 à l'école secondaire Joseph Charbonneau sur la rue Rousselot. Puis les raquettes et les balles sont fournies. C'est un sport assez impressionnant, mais très silencieux parce qu'il faut écouter la balle qui part d'un côté à l'autre. Puis juste essayez ça pour le fun. Fermez vos yeux puis essayez de frapper une balle.
Ah non, écoute. Alors, on respecte les règles de Wimbledon où tout doit être silencieux.
Tout est silencieux. Puis juste un échange est un exploit.
J'ai vu aussi un spectacle de danse entre un aveugle et... En fait, une aveugle et un monsieur, et c'était totalement magnifique, mais extraordinaire de penser que l'on peut suivre le rythme.
Tout à fait.
En le voyant.
Et là, il y a un lien à faire avec votre prochain article, chère Monique.
Oui, alors c'est un article d'Alexandra Pihen pour la revue Science et Vie du mois d'août 2018. Et cet article s'intitule « Enfants, pourquoi nous épuise-t-il ? » Alors, il court, il saute, il n'arrête jamais, puis nous, on est là, on est en sueur et on se dit « Mon petit enfant de 10 ans, pourquoi me rappelle-t-il encore, encore? » Eh bien, cette énergie, elle viendrait de leurs petits muscles, à nul autre pareil. Vous en doutiez-vous?
Non.
Non?
Continue.
Alors, ce qu'on a fait, on a comparé en laboratoire les performances physiques et les marqueurs physiologiques d'un groupe d'enfants âgés de 10 à 11 ans. 10 et 11 ans, pardon, non seulement avec celle d'un groupe d'adultes ordinaires, lambda, mais aussi avec celle d'un groupe d'athlètes spécialisés dans les sports d'endurance. D'accord?
Mm-hmm.
Alors, tous les participants ont réalisé un sprint de 30 secondes sur un vélo stationnaire.
Okay.
Après analyse des données enregistrées, eh bien, quel est le résultat? Les enfants se sont révélés métaboliquement comparables aux athlètes et les ont même surpassés en récupération physique. Okay. Alors, je vous explique maintenant, cette supériorité inattendue, elle est le fruit de quoi? Eh bien, c'est pas parce que les enfants sont des adultes miniatures, là. Pas du tout. En fait, leurs muscles sont constitués de 70 % de fibres rouges, donc irriguées par de nombreux vaisseaux sanguins, et 30 % de fibres blanches, moins irriguées. Cette proportion tend à s'équilibrer chez les adultes. La particularité des fibres blanches, c'est qu'elles permettent le déploiement d'une forte puissance musculaire sur une courte durée, alors que les fibres rouges, c'est une puissance musculaire moindre, mais sur une plus longue durée. C'est pas tout. La petite taille. Avant les poussées de croissance fulgurante de l'adolescence, parce que ça, c'était bien important dans l'étude, il y a un transport d'oxygène plus rapide et dans un laps de temps assez rapide chez l'enfant. Alors, au cours de l'expérience, les plus jeunes ont pris tout le monde de vitesse, dit-on, mais de surprise. 2 minutes après l'effort, ils avaient recouvert 85 % de leur fréquence cardiaque contre 60 chez les athlètes et seulement 40 chez le monde ordinaire.
Chez les patates.
Chez les patates, c'est ça. Mais il ne serait pas tout à fait exact de dire que les enfants sont aussi endurants que les athlètes. Si vous les faites courir à la même vitesse, ben, ils s'épuisent plus facilement, en fait. C'est en fait la mécanique de leur corps qui fait que leurs plus petites jambes ont une moins bonne coordination et également moins bonne restitution de l'énergie élastique. Mais ils récupèrent plus vite, d'où le sentiment qu'ils sont infatigables. Mais ils n'ont pas les mêmes efforts de longue durée. Juste pour terminer, il est important de laisser nos petits-enfants s'épuiser comme ça, parce qu'à partir de la puberté, c'est tout autre chose.
Oui, ils dorment.
Ils dorment, exactement. Mais pas tout à fait, là, j'aurais pu apporter certaines nuances. Alors, c'était donc un article de la revue Science et Avenir, rédigé par Alexandra Pienne.
Merci beaucoup, Monique. Avant de passer... À la pause, on va continuer sur le domaine de l'enfance, Marie.
Un petit mot d'enfant.
Ben oui.
Un hydravion, selon Isabelle, qui a 9 ans, c'est un avion qui vit sur une rivière, mais qui vole dans le ciel.
Oh.
C'est beau, hein?
C'est
tout
mignon.
À fait, tout à fait. Alors, on se prend une petite pause pour café, jus d'orange, toast, et on vous revient avec encore des sujets assez hétéroclites. À bientôt. Et nous revoici. Il faut que je m'habitue
au nouveau rythme.
Hein? Parce qu'auparavant, on avait une chanson ici. Alors, Marie, qu'est-ce que tu nous racontes dans cette deuxième partie?
Alors, moi, je vous présente un résumé d'entrevue avec Égide Royer, dont on parle de plus en plus au Québec.
C'est une de tes idoles.
Oui, avec une nuance, mais oui, effectivement. Et dans un deuxième temps, je vous parle de l'importance de satisfaire les besoins psychologiques des enfants au primaire pour faciliter leur passage au secondaire.
Oh, yeah. Oui, sûrement. Monique, de ton côté, tu...
Oui, ça n'a rien à voir avec les enfants, je peux vous dire ça. Okay. Y a-t-il un seul profil de proxénète?
Non.
Et sinon, à quoi servirait une typologie de ces personnes?
Oui, j'ai bien fait de parler de sujets hétéroclites tantôt.
Oui.
Alors moi, je vais vous présenter une athlète que vous ne soupçonnez pas, mais que vous connaissez un peu plus depuis un an environ.
Bon.
Je vous laisse sous le mystère.
D'accord.
Alors Marie, tu nous parles d'une personne que dont tu lis les écrits et écoutes les commentaires très souvent.
Oui, très souvent. Puis c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mm-hmm. avec lequel je ne suis pas toujours d'accord, mais que j'admire beaucoup. Châtelaine, la revue Châtelaine a réalisé une entrevue de Égide Royer ce mois-ci, le 24 septembre. Et donc, je vous rapporte grosso modo les faits saillants de ce texte. Qui se titre, en fait, « L'école, comment faire réussir tout le monde? » C'est la préoccupation d'Égide Royer. En ce moment, seul un élève en difficulté d'apprentissage sur trois réussit à obtenir un diplôme d'études secondaires au Québec, un sur trois. On parle d'élèves en difficulté. Pour les deux tiers restants, c'est l'échec. Le taux de diplomation de ces écoles devrait pourtant atteindre 60 % comme en Ontario. On se compare beaucoup avec l'Ontario, estime le psychologue Égide Royer. Et rappelons que Égide Royer est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Pour mieux aider les jeunes en difficulté d'apprentissage, il faut agir tôt et avec force. Égide Royer parle souvent de l'importance de la maternelle 4 ans. On va en entendre parler beaucoup ici, pour détecter rapidement différents troubles. Mais même au secondaire, on peut faire, d'après lui, de la prévention. La première des choses à faire est de repérer les jeunes qui n'ont pas le niveau en lecture, c'est-à-dire qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est impossible de réussir son secondaire si on a un retard en lecture. D'après M. Royer, les enseignants sont excellents pour aider un élève qui a des problèmes en lecture, en écriture ou en mathématiques. Mais la formation des éducateurs spécialisés et des enseignants pour intervenir auprès des jeunes autistes ou présentant des difficultés de comportement a des lacunes majeures. Les gens sont pleins de bonne volonté, ils se préoccupent du bien-être de leurs jeunes, les suivent et agissent même parfois à l'extérieur de l'école pour leur venir en aide, mais il faudrait qu'ils aient accès aux meilleurs programmes de formation. Et qu'est-ce qui fonctionne avec ces jeunes qui ont un problème d'adaptation ou de comportement? Une des interventions les plus efficaces au secondaire est d'avoir recours à un mentor. C'est simple comme bonjour. Le simple fait qu'un adulte se préoccupe d'eux peut changer la situation du tout au tout pour ces jeunes. Et il raconte dans le texte l'histoire d'une jeune qui était près de décrocher, qui s'est liée d'amitié avec la réceptionniste de l'école et qui a maintenu son intérêt à l'école à cause de cette relation-là. Okay. Il y a cette espèce de mythe qui dit que l'adolescence est une période terrible, bourrée de problèmes. Mais pour la plupart des ados, c'est pas le cas. Bien sûr, leur chambre est dans un drôle d'état et ils s'opposent parfois à l'autorité pour mieux se définir, mais c'est pas une crise, ça, en soi. La majorité des jeunes passent une adolescence normale tant que des retards scolaires ne minent pas leur confiance en eux-mêmes. Mais il y a toujours une petite proportion qui ont besoin de se référer à des adultes solides, à des modèles qui les prennent sous leur aile et qui ont de l'affection pour eux. Il faut pouvoir leur apporter ce soutien. Au sujet de la différence entre le taux de réussite des jeunes en difficulté au Québec et en Ontario, Égide Royer dit que les systèmes éducatifs qui réussissent le mieux sont ceux qui mettent en application les meilleures pratiques. Et ça, c'est pour ça que je l'admire beaucoup. Il se base sur des résultats scientifiques, un peu comme en médecine. Si on consulte 3 ou 4 médecins spécialistes pour un même trouble, on va recevoir les mêmes réponses de chacun à peu de choses près. Mm-hmm. C'est parce qu'il se fie à la science et on devrait agir de la même façon en éducation. Les recherches sur la meilleure manière de mener les jeunes en difficulté à la réussite scolaire disent, notamment, qu'il faut les maintenir dans les classes ordinaires, les classes qu'on appelait régulières. C'est d'ailleurs ce qui se fait dans les commissions scolaires anglophones. Mais pour que ça fonctionne, il faut que toutes les écoles mettent la main à la pâte. Actuellement, les écoles privées et les écoles publiques à projet particulier attirent les élèves les plus forts. Ce tamisage fait que les classes ordinaires se retrouvent avec une proportion beaucoup trop grande d'élèves en difficulté. M. Royer croit que tous les établissements scolaires devraient être dans l'obligation d'accueillir des élèves en difficulté et de leur fournir des services. Alors, je rappelle, le titre complet de l'article, c'est « École, comment faire réussir tout le monde », selon Égide Royer. C'est Andréane Moreau qui a publié ce texte dans le magazine Châtelaine le 24 septembre.
Merci Marie, on pourra en discuter pas mal de ça.
Oh oui.
Alors, de mon côté, mesdames, je sens que vous avez manqué les carnets d'endorphines depuis quelques semaines. Et c'est donc Geneviève Lefebvre dans la presse du 19 septembre qui nous présente quelqu'un qu'on connaît, mais pas sous l'angle sportif. C'est Valérie Plante, la mairesse de Montréal.
Oui. Ah oui, ben oui.
Alors, l'article s'intitule « Valérie Plante, la sportive urbaine ». La première fois que j'ai vu Valérie Plante, là, c'est Geneviève Lefebvre qui parle, c'était il y a plusieurs années sur le quai Jacques-Cartier du Vieux-Port, à l'occasion d'une des premières éditions du Grand Splash, organisé par le Comité citoyen Montréal-Baignade. Cet événement met en lumière le désir légitime des Montréalais d'avoir un meilleur accès aux cours d'eau qui entourent l'île. Peu connue à l'époque, Valérie Plante n'avait pas encore remporté ses élections dans le district Sainte-Marie. La course à la direction de Projet Montréal était loin et la victoire jusqu'à la mairie encore plus. Mais comment ne pas remarquer cette fille qui a été une des premières à se pitcher dans le fleuve, les bras grands ouverts? Sa vitalité était contagieuse et son charisme irrésistible. On peut juste s'imaginer qu'elle se lance dans le fleuve puis qu'elle part à rire. Des années plus tard, alors que la petite fille de l'Abitibi tombée en amour avec Montréal dirige la métropole, il se dégage de la belle sportive la même énergie joyeuse qui donne envie d'entrer dans l'action. Au moment où on s'est parlé, elle s'apprêtait d'ailleurs à assurer la partie course d'un triathlon en équipe au défi BDC à Montréal. Elle nous dit « À la base, mon sport, c'est la natation et j'en fais depuis l'enfance, sauf que l'entraînement en piscine, ça se place moins bien dans mon horaire que la course et je suis compétitive, je veux performer pour mon équipe. » A-t-elle été tentée d'abandonner le sport depuis son arrivée à la mairie? Non, jamais. Bouger pour moi, c'est vital, c'est mon équilibre. J'ai toujours été active, ça régénère mon énergie. Et si je passe plus de 5 jours sans faire de sport, je me fais dire d'aller courir. La conciliation famille, travail, entraînement, c'est du sport pour tout le monde. Valérie Plante ne fait pas exception. Je trouve des moments. Si je ne suis pas au bureau avec mes enfants, j'enfile mes running et je vais courir. Je pratique le yoga en studio depuis 15 ans, mais j'ai aussi un tapis dans mon salon, dans ma cour et au bureau. Les journées sont longues. Si j'ai besoin de me recentrer, je fais des étirements et je retourne travailler. Le sport lui permet de mieux vivre et voir sa ville. Elle se déplace de son domicile jusqu'à la mairie à vélo. Une excellente occasion de m'oxygéner, mais aussi de voir la ville sous un angle actif. Et quand elle utilise la voiture de fonction, sur laquelle elle a fait installer un support à vélo, ça lui permet de voir la ville du point de vue des automobilistes. Dans un cas comme dans l'autre, elle prend des notes sur les aménagements urbains à améliorer. Et grâce à ses fréquentes sorties de course à pied, elle profite du plaisir de rencontrer ses concitoyens dans leur quotidien. Elle dit d'ailleurs qu'elle court avec sa casquette et ses lunettes, mais les gens la reconnaissent, ils la saluent, on discute parfois et elle adore ça. Valérie Plante est convaincue des bienfaits de l'activité physique dans la vie quotidienne. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour l'économie. Elle y ajoute une dimension de réflexion et d'apaisement nécessaire dans sa réalité quotidienne. La politique, c'est un sport extrême. On a des journées en dents de scie où on passe d'un extrême à l'autre. On gère les bonnes nouvelles, les crises et l'administration tout en même temps. Pédaler sur mon vélo, prendre une pause yoga ou aller courir devient alors un espace de ventilation où je décante les choses. Ça fait beaucoup de bien. En fait, je ne sais pas comment on peut vivre une vie en politique sans faire de sport. Alors, le 3 juillet de cette année qu'on vient passer, à l'occasion du 14e Grand Splash, Valérie Plante s'est jetée à l'eau avec le même enthousiasme qu'à ses débuts. Et si on s'entend pour dire que l'on prêche par l'exemple, celle dont plus personne n'ignore le nom et que l'on peut voir courir sur le chemin des carrières et dans le parc Frédéric Bach, cet ancien terrain contaminé transformé en magnifique oasis de verdure, c'est un exemple à suivre. Alors, c'était dans les carnets d'endorphines, Valérie Plante, la sportive urbaine, dans la presse du 19 septembre.
Et je vous encourage à aller au parc, Frédéric Pack. Mm-hmm. Oui. C'est bon. Vraiment de toute beauté.
Mm-hmm. Cool.
Café rue d'Amsterdam, rien que nous deux, dans tout Paname. Tu veux du feu? Voilà ma flamme. Flou dans les yeux, sacré ramdam. Dans la sono, un air de wham. Et à vous dire, c'est de la bonne cam.
Et ça sera quoi pour cette monsieur-dame?
Un croque-monsieur et un. Et je craque et je craque, craque, craque et je croque et je croque, madame. Croque, croque, je croque et je craque et je craque, craque, craque et je croque et je croque, madame. C'est ce qui se trame, pas d'amalgame, je suis le macadam. Drôle d'oiseau, drôle de drame, à ce petit jeu, j'ai fait mes gammes. Notre amour sera cannibale, on se mange les yeux, gare à ton âme. Je suis poli, mais polygame, et j'ai les crocs. Et je croque et je croque. Croque, madame. Croque, croque, je craque et je croque et je croque, croque, croque et je craque et je croque, madame.
Thomas Dutronc, croque madame.
Croque madame.
Ou pas croque monsieur.
Non, mais c'est quand même une oui. ouverture intéressante pour ton article, Monique.
Oui.
Parce que je lis le titre, j'ai plein de points d'interrogation en tête. Diversité bon. Insoupçonnée des proxénètes.
Voilà. Alors, c'est un article de Mathieu Robert Sauvé pour le journal Forum. Forum étant le journal de l'UdeM, de l'Université de Montréal, du 2 octobre dernier. Alors, vous avez donc révélé le titre. Ce qu'on nous dit dans cet article, c'est que, d'abord, les proxénètes ne sont pas tous des hommes violents connus de la police qui commettent des vols et vendent de la drogue en plus de vivre du commerce du sexe.
C'est presque rassurant.
Ce stéréotype existe, mais il ne correspondrait pas tout à fait à la majorité des cas, même si c'est l'image qui prédomine dans l'esprit des gens à cause des séries de fiction et même chez certains chercheurs. Comme nous le dit la candidate au doctorat en criminologie, Véronique Chadillon-Farinacci de l'Université de Montréal, qui consacre donc actuellement ses travaux à l'étude approfondie de ces tierces parties, qu'on appelle aussi intermédiaires ou facilitateurs de l'industrie du sexe. C'est plus chic, n'est-ce pas? Elle définit trois profils, les profils bas, les hustlers et les malmenés. Elle précise que le proxénète moyen agit plutôt discrètement et il n'est en général pas connu des policiers et ne commet pas d'autres délits que de vivre des fruits de la prostitution d'autrui ou encore de tenir une maison de débauche. Et il s'agirait d'une femme sur quatre. C'est-à-dire qu'il y a une femme sur quatre, qui serait une femme.
Une proxénète.
Une proxénète, c'est ça. Alors, ceux qu'elle nomme dans sa typologie les profils bas sont deux fois moins arrêtés par la police que l'ensemble des individus accusés ou soupçonnés de proxénétisme. Et dans c'est dans cette catégorie que se trouve la majorité des femmes faisant partie de l'échantillon. Le second groupe, que l'on a appelé les « hustlers », compte pour près du cinquième de l'échantillon. Il est plus violent que les autres, et l'homme y est largement dominant. C'est celui qui ressemble le plus au stéréotype, il va sans dire, comme je disais, composé à 92% d'hommes, et sa criminalité est diversifiée en termes de type de crime et d'intensité. Le dernier groupe, celui des malmenés, alors il est composé de 9% de l'échantillon, et ceux qui en font partie subissent plus que les autres des situations de violence, voies de fait, agressions armées et menaces, et il est constitué presque à part égale d'hommes et de femmes. Et les malmenés commettent des actes violents, mais ils sont en général davantage victimes de cette violence qu'ils en sont les auteurs. Si les études en criminologie sur la prostitution portent d'ordinaire sur les prostituées et les clients, peu se penchent justement sur le proxénétisme. Et ça vaut la peine, déplore la doctorante, de s'y intéresser. Le fait de mieux connaître les hommes et les femmes qui récoltent des revenus des travailleurs du sexe permettrait, entre autres, aux enquêteurs de s'attaquer plus efficacement aux individus qui sont problématiques. Ça permettrait aussi de mener des enquêtes plus ciblées et peut-être plus objectives. Donc, la typologie établie permettra à la doctorante de nuancer les sphères d'activité criminelle, la victimisation et le renseignement effectué sur les personnes impliquées dans des transactions sexuelles commerciales qui ne sont ni des travailleurs du sexe ni des clients, et de donner un sens à tout ça. Mmh. Alors, voilà, c'était un article de Mathieu Robert-Sauvé pour le journal Forum du 2 octobre dernier.
Intéressant. Et là, on s'en va complètement à l'autre bout du spectre.
Oui, là, je vous parle d'une étude sur la transition, l'adaptation et la persévérance scolaire qui s'appelle ÉTAP. Études sur la transition, adaptation et la persévérance scolaire. Et c'est une stratégie d'action qui a été mise sur pied par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est un texte que j'ai trouvé sur le site RIRE, le réseau d'information pour la réussite éducative, le 24 septembre dernier. Cette étude, donc, elle vise à augmenter le taux de diplomation des jeunes et permet notamment d'examiner les facteurs de la réussite scolaire et surtout d'une bonne transition entre le primaire et le secondaire. Les chercheurs associés à cette étude ont suivi 609 élèves francophones de sixième année, dont 55% étaient des filles, donc un peu plus de la moitié. Ces élèves ont dû répondre à un questionnaire une fois par année pendant 5 ans, soit jusqu'à leur cinquième secondaire. Les données recueillies ont servi à dresser un bilan qui montre l'importance de satisfaire les besoins psychologiques des élèves tout au long de leur parcours scolaire. La satisfaction de ces besoins serait en effet directement liée pour les élèves à leur capacité de s'ajuster adéquatement à la fin de leur secondaire et donc à la qualité de cet ajustement, soit scolaire, soit social, personnel ou émotif. Les besoins psychologiques à satisfaire sont de 3 types. Alors, le premier, c'est l'autonomie. Donc, par exemple, la possibilité de prendre des décisions soi-même. Le deuxième besoin, c'est un besoin de compétence. Par exemple, se sentir apte à effectuer certaines tâches. Et le troisième besoin, c'est un besoin d'appartenance. Par exemple, entretenir des relations interpersonnelles significatives et agréables. Quant à la qualité de l'ajustement à la fin du secondaire, ça touche 3 sphères. D'abord, l'ajustement scolaire. Par exemple, accomplir les tâches demandées au secondaire, qui ne sont pas les mêmes que celles au primaire. Deuxièmement, l'ajustement social, soit la qualité des relations avec les enseignants et avec les autres élèves, et finalement l'ajustement personnel ou émotif, c'est-à-dire le bien-être psychologique et physique global. Les chercheurs ont observé différents sous-groupes parmi les élèves participants. Chez certains, la satisfaction des besoins est constante de la sixième année du primaire à la cinquième année du secondaire, alors que chez d'autres, cette satisfaction peut augmenter ou diminuer au fil des années. En général, ce sont principalement les filles qui voient leurs besoins satisfaits. Il existerait donc une corrélation entre la satisfaction de chaque type de besoin et le niveau d'ajustement au secondaire. Par exemple, un élève qui aurait un sentiment d'autonomie élevé serait plus apte à s'ajuster adéquatement sur le plan scolaire, social, personnel ou émotif. Les chercheurs de l'étape soulignent qu'on doit se soucier des besoins psychologiques des élèves dès le début du primaire et ce jusqu'à la fin du secondaire. Pour ce faire, on pourrait mettre en place plusieurs stratégies comme donner la possibilité aux élèves de prendre des décisions, de faire des choix, leur confier des tâches qui présentent un défi, leur assurer une présence chaleureuse et bienveillante. Et ici, on fait lien avec les moyens préconisés par Égide Royer, par exemple, le mentorat. Alors, le titre de cet article qu'on peut trouver sur le site RIRE, c'est « La satisfaction des besoins psychologiques et l'ajustement au secondaire ». C'est Nathalie Couson et Anne-Marie Grondin qui ont publié, écrit et publié cet article. Voilà.
Merci beaucoup.
Ça fait depuis l'enfance que je connais Pauline. Je n'ai jamais eu la chance d'être sa copine. Ah ah ah. Elle avait l'air plus grande, ses jambes étaient si fines. Il y avait dans sa bande que les plus jolies filles. Ah hum, hum, oh Pauline, pendue à tes bottines. Les garçons passaient tous à côté de moi. Oh Pauline, belle comme une ballerine. Je les comprenais, je ne l'en voulais pas.
On a suivi nos routes, un peu en parallèle. Moi surmontant mes doutes et toi de plus en plus belle.
Oh oh oh, j'ai trouvé ce garçon qui me trouvait je ne sais quoi. Mais tu connais son nom et tu le veux pour toi. Oui, tu le veux pour toi, oh Pauline. J'ai pas ta poitrine, mais mon cœur bat pour lui, ne me fais pas ça. Oh Pauline, moulée dans ton jean, tu sais que je ne peux pas lutter contre ça.
Je ne suis pas stupide, tu peux claquer des doigts en faire un chien de cirque, il ne vivra que pour toi.
Oh, oh, oh.
Pour toi ce n'est qu'un jeu, tu l'oublieras demain. Moi je suis folle amoureuse, s'il me quitte c'est la fin.
S'il me quitte c'est la fin. Oh Pauline, rose pleine d'épines. Tu le blesseras un jour, alors laisse-le-moi. Oh Pauline, range tes canines. Laisse le bonheur aux autres, au moins pour cette fois. Cette fois, oh Pauline, oh Pauline, laisse le bonheur aux autres, au moins pour cette fois.
On vient d'entendre Pomme accompagnée de Fanny Bloom qui nous chantait Pauline.
Merci Maurice. Alors, quelques brèves, chers amis, on commence par Marie.
Oui, alors savez-vous que demain, 5 octobre, c'est le début au Jardin botanique du Grand Bal des citrouilles. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. C'est du 5 au 31 octobre.
Ça, c'est en même temps que les soirées de lumière.
De lumière. Écoute, je vais vérifier, je vous reviendrai là-dessus.
D'accord.
Alors, en parlant de citrouilles, on pense à l'agriculture. Où se concentraient les hommes au début de l'agriculture? Alors, pour la première fois, des scientifiques américains ont estimé les densités passées des populations. 10 000 ans avant notre ère, les zones les plus peuplées étaient l'Afrique, les côtes de l'Amérique du Sud et la péninsule arabique. Mmh. Vous êtes plus savant maintenant.
Mmh. Oh, mais rien en Amérique?
En Amérique du Sud.
Ah oui, OK. Oui, oui, c'est de l'Amérique quand même. Hein?
Oui.
OK, non, c'est à mon tour. Alors, moi, je vous amène marcher au mont Arthabaska dans la région de Victoriaville, dans le centre du Québec. Que vous empruntiez le sentier du Grand Tour ou la Quatre Saisons, gagnez le sommet du mont Arthabaska et toute la région du centre du Québec, dorée par ses couleurs d'automne. Un réseau gratuit et accessible à toute la famille. Marie.
Un petit mot d'enfant avant de partir. Selon Avril, qui a 7 ans et demi.
Oui.
Alors, selon Avril, qui a 7 ans et demi, un losange, c'est un carré tordu en billets.
Oui, c'est vrai.
C'est tout à fait vrai.
C'est tout à fait vrai. Moi, pendant ce temps-là, je vous amène faire une marche, passer le temps des marches avec toutes les couleurs, dans la région de Sainte-Adèle. Mais là, préparez-vous pour la circulation, par exemple, en fin de semaine. Grimpez au sommet du mont du Rocher et régalez-vous de la vue sur les Laurentides colorées. Le réseau plein air de Sainte-Adèle propose de randonner gratuitement sur ces sentiers qui serpentent sur ces reliefs et autour de plusieurs lacs. Alors, chers amis, on s'en va vers une fin de semaine de 3 jours avec plein de couleurs. Alors, j'espère que vous prendrez le temps de sortir, que ce soit pour racler des feuilles, que ce soit pour aller marcher, aller rouler, juste prendre l'air.
Ou prendre l'avion vers le Portugal.
Ah oui,
oh,
c'est
comme
vrai.
Certains
bon voyage,
vont faire.
Monique.
Merci.
Alors, à la prochaine. Nous, on se réécoute jeudi prochain. Ça va être Marie et moi. Et on vous ramène toutes sortes de sujets du côté de l'enfance et du côté du plein air. Merci.